France Inter.
It's morning edition from NPR News.
Ben City's and in the house.
Halia Radio Rosana Piparis.
Produce gente en la radio.
Son pas changer de radio.
France Inter. Le 18-20. Fabienne Saint-Es.
Un jour dans le monde, c'est un jour après l'offensive sur les droits de douane de Trump.
The European Union has treated us so terribly. So we'll be doing something very substantial with the European Union. We're going to bring the level up to where it should be.
Voilà, c'était vendredi dernier. L'Europe nous a très maltraités, dit Donald Trump. Nous allons faire quelque chose de conséquent en ce qui concerne l'Union européenne. Nous allons mettre les droits de douane au niveau où ils devraient être. Bonsoir Sylvie Matelli.
Bonsoir.
Vous êtes économiste, directrice de l'Institut Jacques Delors. On va y aller en Europe dans un instant, mais je voudrais quand même qu'on fasse un peu de chronologie sur ce qui s'est passé très rapidement à la face au week-end et aussi ce lundi. Donc ça commence avec Trump qui annonce 25% de plus sur les importations canadiennes et mexicaines vers les États-Unis, 10% de plus concernant la Chine. Et puis on a appris il y a à peine une heure que finalement il suspendait les décisions vers le Mexique contre le déploiement de 10 000 agents mexicains à la frontière pour éviter le trafic de drogue notamment. Bien sûr, on parle d'économie, on va parler d'économie, mais ces décisions, Sylvie Matelli, disent avant tout qu'on parle politique en fait. Est-ce que ça facilite le jeu? Est-ce que ça fausse le jeu? Est-ce que ça trouble le jeu?
Alors déjà, il suspend pour un mois sur le Mexique, donc ouais. Il suspend pas complètement ses décisions. Mais effectivement, on voit qu'il a cette habitude de lier tous les dossiers, de lier les enjeux économiques, le trafic de drogue, la dépendance et le problème du fentanyl et de la drogue aux États-Unis, la question de l'immigration. Enfin, pour lui, tout est dans un melting pot de sujets et il mélange tout et il lie tous les sujets. Et bien évidemment, en regardant assez peu les conséquences économiques et les intérêts économiques des États-Unis, il est clair qu'il met la pression sur ses alliés, et c'est ça qui est aussi très inquiétant, c'est qu'il ne s'attaque pas à des puissances comme la Russie, enfin il s'est attaqué un petit peu à la Chine, mais je veux dire, il s'attaque beaucoup plus fort à ses proches alliés, ça a de quoi inquiéter.
Alors on va la poser, la question de savoir effectivement pourquoi c'est plutôt vers les alliés qu'il tape très fort, moins sur la Chine. Un mot quand même sur cette histoire de Mexique, ça veut dire que la loi du plus fort, ça marche. Parce que là-dessus, au fond, est-ce qu'il n'est pas gagnant-gagnant, Donald Trump? Il a 10 000 hommes à la frontière, c'est bien ce qu'il voulait, il épargne aussi aux Américains une augmentation des prix, parce qu'il y en a un certain nombre qu'on finit par comprendre, effectivement, la relation entre augmentation des droits d'homme et inflation. Avec cette méthode-là, il est gagnant-gagnant, non ?
Alors, reste à voir ce qui va se mettre en place, et encore une fois, il ne suspend que pour un mois. Mais c'est vrai que le risque, comme il met tous les dossiers dans le même panier, on a tendance à pas vouloir se tirer une balle dans le pied, on a tendance à vouloir essayer de trouver un compromis, ce qu'ont fait les Mexicains. Mais effectivement, est-ce qu'à l'arrivée, ils ne vont pas finir par perdre complètement la partie? Et ça, on le verra très vite. La première réaction des Mexicains et des Canadiens était assez intéressante, c'est-à-dire, c'était de dire, on va faire front commun contre cette mesure-là. Est-ce que c'est pas aussi cette menace de front commun qui a pu pousser Donald Trump à retourner à retourner à la table des négociations, à vouloir leur parler, à vouloir échanger avec eux, et échanger séparément. Donc il est aussi dans la division et il veut casser aussi cette possibilité de front commun.
Est-ce que c'est pour ça d'ailleurs qu'il tape donc plus fort sur ses alliés que sur la Chine? Parce que là pour le coup la Chine a des leviers, enfin on a l'impression qu'il avance un peu comme dans un magasin de porcelaine. TikTok est un levier, Tesla est un levier avec son ami Elon Musk, et il faut des leviers pour pouvoir parler avec Trump, pour pouvoir le contrer.
Tout à fait, il faut des leviers et en fait, ce qu'il a, il ne s'attaque pas en tant que tel à ses alliés, il s'attaque à des puissances qu'il considère comme des puissances moyennes ou en tout cas plus faibles que lui, et donc il peut faire très mal et il peut avoir dans le rapport de force, il est sûr qu'il va arriver à établir un rapport de force en sa faveur. Et c'est peut-être une des clés aussi de la réaction et de l'attitude qu'on doit avoir face à Donald Trump, c'est qu'il faut arriver à construire, peut-être tous unis, peut-être en front commun, un rapport de force qui soit plus défavorable ou moins favorable à Donald Trump.
Parce qu'effectivement, si demain c'est notre tour, si je puis dire, qu'on annonce des droits de douane vis-à-vis de l'Europe très élevés, est-ce qu'on négocie? Est-ce qu'on riposte? Est-ce que, pour jouer le même jeu, on commence d'abord par élever la voix et puis on discute après? Qu'est-ce qu'on fait?
Ouais. Eh bien, il y a une certaine union dans la réaction, en tout cas dans ce qui est promis comme réaction, c'est-à-dire on dit il faudra faire respecter nos intérêts, il faudra se défendre. Et en même temps, on entend également dans la bouche de tous les dirigeants de l'Union européenne, il faudra se faire respecter et défendre nos intérêts, et en même temps, il faudra pas aller à la guerre commerciale, il faut arriver à coopérer et se faire respecter dans un but de réinitier une coopération. Et c'est très très mal connaître Donald Trump, parce que si on a cette faiblesse de croire qu'à un moment donné, en cédant un petit peu, on va obtenir gain de cause, je crois qu'on se trompe.
Alors, Pardon, deux choses, Sylvie Matelli. D'abord, avant même les menaces, avant même le Mexique, avant même le Canada, Ursula von der Leyen a proposé, il y a quelques semaines, a suggéré de remplacer le gaz naturel liquéfié russe par du GNL américain, mine de rien. Christine Lagarde, présidente de la BCE, se dit favorable, après tout, à plus d'achats de produits américains. Donc, on a, en quelque sorte, devancé l'appel. Est-ce que devancer cet appel, c'est déjà partiellement se coucher, ça dit quoi ? Quand on n'attend même pas de se faire taper sur les doigts pour donner ce qu'on nous demande.
Oui, il faut être très prudent effectivement avec ce type de promesse, parce que finalement, on lui donne déjà un minimum, et en tout cas lui considérera que c'est quelque chose qui nous fait même pas mal, en fait, que c'est rien du tout, donc il va forcément exiger plus, donc il faut être extrêmement prudent. Il est évident qu'il faut avoir des éléments et des sujets à négocier, qu'il faut établir un rapport de force, mais établir un rapport de force, ça veut dire peut-être savoir aussi, à un moment donné, élever le ton et dire stop, on n'ira pas dans une guerre commerciale, ou en tout cas on ne se laissera pas faire, on pourra réagir même si notre vœu n'est pas aller dans la guerre commerciale. Et je crois qu'il s'attaque aussi, on parlait pourquoi il s'attaque au Mexique, au Canada, etc. C'est parce qu'il sent bien que les relations, ce sont ses principaux partenaires commerciaux. Et il s'attaque dans l'ordre, Canada, Mexique.
Et l'ALENA marchait plutôt bien d'ailleurs, l'accord États-Unis, Canada, Mexique.
Exactement, et ça fonctionnait plutôt bien, et c'est un accord qui avait été renégocié par Donald Trump, en plus c'est extraordinaire, c'est-à-dire on est encore passé dans le Trump 2, on est encore passé dans quelque chose de nouveau. Et on a l'impression que les nouvelles saisons sont toujours encore mieux que les précédentes. mais il est clair que il sait qu'on a des points faibles parce qu'on a des relations commerciales, mais il faut qu'on arrive à lui faire comprendre, nous aussi, que ces points faibles sont aussi ces points faibles à lui, en fait, et que ce sont nos points forts à nous.
Alors, est-ce qu'on les a vraiment, ces moyens ? Vous disiez tout à l'heure, il faut montrer une Europe unie, il faut montrer un front, en fait, mais pour l'instant, le front est là, mais les chiffres, on ne les a pas. Mais on voit bien d'un côté que vers quoi voudraient pousser les Allemands, par exemple, évidemment, partiellement vers les voitures. Nous, on a plutôt envie de pousser vers ce qui nous intéresse et ce qui nous menace, c'est-à-dire les produits de luxe, c'est-à-dire l'aéronautique, à un moment ou à un autre, est-ce qu'elle n'est pas là, la victoire de Trump, au fond, c'est de savoir que là-dessus, on aura du mal à garder ce front commun, nous, les 27.
Alors, pour l'instant, on ne peut pas parler de victoire, et on en parlera peut-être dans quelques semaines, mais je crois qu'effectivement, au-delà du coup d'après, il faut penser encore à plus long terme et imaginer si aujourd'hui, on affiche une division et une faiblesse, il va très clairement surfer là-dessus. Rappelez-vous, la fois précédente et lors de son précédent mandat, il en voulait aux Allemands et en même temps, c'est le cognac qui l'a frappé en France. Donc, parce qu'il savait qu'on était relativement fragile face à nos déficits commerciaux et que quelque part, on allait peser pour qu'on cède plus facilement vis-à-vis de Donald Trump.
Ce qui est difficile à lire, c'est, s'agissant de l'Europe, c'est quoi l'argument de Donald Trump ? Qu'est-ce qui lui plaît pas ? Est-ce que c'est le différentiel commercial, effectivement, qui l'agace ? Il le dit très souvent, on vous achète plein de trucs et vous nous achetez rien, ce qui est évidemment faux, mais enfin, voilà. Est-ce que ce sont les réglementations qui affectent les entreprises américaines ? Est-ce que c'est la bataille contre les big tech, puisque l'Europe réglemente contre les big tech ? C'est quoi qui agace le plus Donald Trump ?
Je pense que c'est tout un ensemble de choses, y compris l'intégration, l'Union européenne en tant que telle, qui est une construction qu'il ne comprend pas. Ce week-end, par exemple, il a critiqué, ou c'était peut-être la semaine dernière, il critiquait le fait qu'on impose de la TVA à des produits américains, alors que tous les produits dans tous les supermarchés d'Europe sont taxés de TVA. Donc, vous voyez, c'est tout un ensemble de choses. Il regrette également, il nous critique également, parce qu'il considère qu'il paye très cher pour assurer la sécurité du continent européen.
On est d'accord que son vrai levier, c'est celui-là, Sylvie Matelli. Enfin, voilà, disons les choses comme ça. Si on arrive, ils nous imposent des droits de douane, on arrive, on dit, finalement, on va donner 5% de notre PIB et plus 3. Ils les lèvent immédiatement, le levier, il est là, non ?
Oui, très clairement. Et c'est vrai que le fait d'avoir mélangé tous les dossiers et d'avoir lié le dossier sécuritaire au dossier économique, ça crée chez nous une certaine peur, en fait, parce qu'on sent bien qu'on n'est pas capable de se défendre sans les États-Unis au sein de l'OTAN. Donc, très clairement, il joue aussi sur ce jeu-là. Il faudra peut-être attendre d'ici demain soir et la fin du sommet qui s'est réuni sur la défense européenne, auquel demain participera d'ailleurs Keir Starmer, le Premier ministre britannique, pour savoir comment on est prêt à réagir face à ces menaces, mais il est évident que le mélange de tous ces dossiers est pour nous une faiblesse.
Sachant que les 5% est impossible pour l'ensemble des 27. Il y a certains pays qui ont les épaules assez solides, peut-être que nous, et encore qu'en ce moment on sait que c'est compliqué, mais peut-être que certains, il est évident que la plupart des pays n'ont pas les reins assez solides pour donner 5% de leur PIB, on est d'accord avec ça ?
Oui, tout à fait. Bon, déjà, les États-Unis ne consacrent pas 5% de leur PIB à leur défense, donc ça c'est un premier élément. Et puis au-delà du les reins assez solide, ça se fera au détriment et pas à un arbitrage d'autres postes de dépenses. Et il est bien évident que ça présente des risques politiques extrêmement importants.
Vous avez cité le Royaume-Uni, Sylvie Matelli, pour ce qui est des questions de défense. Effectivement, je comprends. Les Allemands, Olaf Scholz, a dit lui-même sur les questions commerciales qu'il aurait peut-être intérêt à travailler aussi avec le Royaume-Uni, à reprendre langue, en fait, pour l'Europe avec le Royaume-Uni. Qu'est-ce que vous pensez de ça?
Oui, c'est cette idée que l'on a observée aussi entre le Canada et le Mexique, cette idée que finalement, on peut isoler Donald Trump et que peut-être l'une des réactions les plus saines, en fait, hein, pour contrer Donald Trump, c'est de l'isoler et de lui imposer un front commun, en fait, pour qu'il puisse aider. La seule difficulté, c'est que isoler, ça veut dire rester tous unis derrière cette idée qu'on va l'isoler. Et il est bien évident que c'est pas statique. Donald Trump ne se laissera pas faire et essaiera, par la force des choses, de nous diviser. Or, on sait qu'en Europe, on n'est pas dans des situations politiques particulièrement solides pour pouvoir rester unis jusqu'au bout. Même si on sait bien que c'est la seule partition à jouer.
Et le piège qu'il nous tend, c'est de créer une sorte de relation bilatérale avec certains pays. Est-ce qu'on peut sombrer dans ce piège-là, décider finalement que l'Italie va se débrouiller tout seul? Il y a une relation particulière avec l'Italie, on le sait. Oui. L'Allemagne se débrouille toute seule parce que les enjeux sur l'automobile sont trop importants. C'est une option, ça, ou pas?
C'est complètement une option. Et dans un contexte où il faut bien rappeler que tout ça arrive peut-être au plus mauvais moment. C'est la guerre. On a la guerre en Ukraine, donc la guerre à nos portes, ce qui inquiète très fortement les Européens. On est divisé sur la vision de l'avenir de l'Europe, avec un Parlement européen qui s'est quand même sacrément droitisé, des crises politiques dans un certain nombre de pays européens. Et finalement, les pays européens où aujourd'hui ça semble politiquement le plus stable sont des pays qui sont plutôt les plus proches de Donald Trump ou d'Elon Musk. Donc évidemment, on ne dispose pas de tous les atouts. Et en plus, j'ai oublié de citer le décrochage de l'économie européenne et la nécessité d'investir massivement dans la relance de notre économie.
Quand il dit que l'Europe viendra après, donc il a déjà dit il y aura un moment, mais il ne donne pas de date, est-ce qu'il joue avec nous ou est-ce qui nous fait gagner du temps?
C'est une vraie question et je serais tentée de vous dire peut-être qu'il y réfléchit, qu'il essaye, qu'il n'a pas encore trouvé le bon axe, qu'on l'a alerté sur le fait que l'Europe c'est une grande économie et que si on réagit tous unis ça peut faire très très mal, ou peut-être que il fait des annonces au jour le jour et que demain il va nous annoncer que ça y est, c'est notre tour en fait. C'est très difficile de lire dans sa stratégie.
Est-ce que l'une des solutions est de créer des alliances qui enjambent les États-Unis? Il y en a déjà qui existent. Alors les BRICS entre elles travaillent, l'ASEAN et les pays asiatiques. Nous aussi, nous avons un certain nombre d'accords. Est-ce que l'une des solutions, c'est celle-là? C'est de renforcer des accords qui enjambent? Est-ce qu'on peut créer des accords réellement qui enjambent les États-Unis?
Alors, je ne sais pas si ce seront des accords, mais en tout cas, dans la feuille de route qui a été annoncée la semaine passée par la présidente de la Commission von der Leyen et le vice-président sur la compétitivité, dans le discours qu'elle a eu à Davos également sur l'avenir de l'Union européenne, il y a cette idée qu'il faut qu'on aille se chercher des partenaires ailleurs, qu'il faut absolument reconstruire des relations beaucoup plus soudées avec un certain nombre de pays. Donc, est-ce que ça passera par des accords? J'en sais rien, mais il y a cette idée on a peut-être des alliés là où on ne s'y attendrait pas.
Mais est-ce que ça renforce par exemple le Mercosur? Enfin, on sait bien les discussions qu'il y a eu autour du Mercosur, et notamment d'ailleurs s'agissant de la France. Est-ce que ça met des billes dans le camp du Mercosur, si je puis dire, à votre avis?
Dans le camp de l'accord avec le Mercosur?
Bien sûr, oui.
Oui, tout à fait. Et je crois que c'était déjà dans l'esprit de la Commission lorsqu'elle a quasiment imposé la signature de l'accord au début du mois de décembre et qu'elle a accéléré les pourparlers. Je crois qu'il y a l'élection de Donald Trump dès le début du mois de novembre a donné beaucoup de grains à moudre à tous nos décideurs politiques avec la réflexion sur comment on réagit. Et comment on réagit, c'est peut-être en allant se chercher des alliés en réalité et des partenaires pour réagir face à ces annonces de Donald Trump et à la politique qu'il souhaitait mettre en œuvre.
À suivre, en tout cas, il doit parler à Justin Trudeau aujourd'hui.
Donc,
allez savoir à 20h. Voilà, allez savoir effectivement ce qui peut se passer derrière, qui promettra quoi à l'autre. Merci beaucoup, Sylvie Matelli, vous êtes la directrice de l'Institut Jacques Delors. La suite, ce soir, ça se passe à Goma, en RDC, qui a retrouvé son calme, mais qui porte encore de multiples blessures dans tous les sens du terme de l'offensive armée rwandaise la semaine dernière. Et pour aller ensemble jusqu'à 19h, il y a Kevin Dufraîche sous les radars.
En Italie, des ultras s'attaquent au train de supporters adverses.
Le Monde à 18h49. Franck Madbon, bonsoir Franck.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous. Le président algérien Tebboune critique sévèrement la France dans une interview à l'Opinion. Le dialogue est-il encore possible entre Paris et Alger? Eh bien, on va tenter de répondre oui.
Et la BO du Monde, Cyril Sauvageau. Salut Cyril.
Bonsoir, on viendra sur le palmarès des Grammy Awards et le triomphe de Kendrick Lamar, récompensé après son clash historique avec le rappeur Drake.
Allez, à tout de suite les amis, le tour de la planète continue. Il passe par la playlist d'Inter avec Nick Cave and the Bad Seeds, Song of the Lake. À tout de suite.
On the shore of the lake, the old man sat and watched a woman bathing. With its golden touch, the light was such that the moment was worth saving. And he sang the song of the lake, the song of the lake. And all the king's horses and oh, never mind, never mind. And he knew that he would dissolve if he followed her into the lake. But he also knew that if he remained upon the shore, he would in time evaporate. He sang the song of the lake, the song of the lake. And all the king's horses, oh, never mind, never mind. And he knew that even though he had found heaven, such as described in the ancient scrolls, still he felt the drag of hell upon his old and mortal soul. And he sang the song of the lake, and all the king's horses, oh Lord, never mind, never mind. For every evil under the sun, if there be one, seek it to be found. For there's either a remedy, or there is none. And if there is none, never mind, never mind. Never mind, never mind. Ah, never mind. Never mind.
Le reportage ce soir est à Goma, la grande ville de l'Est de la République démocratique du Congo, conquise la semaine dernière par les combattants du M23 et l'armée rwandaise. Une certaine normalité est revenue à Goma, mais les combats ont fait plusieurs centaines de morts, ont laissé des dégâts considérables. Et le reste, c'est Patricia Huon qui raconte.
Entre deux crachats remplis de sang, il parvient à articuler son nom et son âge.
David.
Oui. 14 ans.
14 ans. Oui. On a toqué à Wapi.
Il s'appelle David, il a 14 ans et une balle logée dans la tête. À l'hôpital de Ndosho, dans l'ouest de Goma, c'est le chaos depuis une semaine. Faute de lits, des brancards et des matelas sont posés sur le sol. Le personnel médical est submergé. Les dépôts de médicaments ont été pillés.
Scotch et 6 paradrins. Il n'y en a pas.
ont volé, les vandales là, ils ont tout pillé. Donc, nous sommes en rupture de beaucoup, beaucoup de produits. Il n'y a même pas de bande élastique pour stabiliser les fractures. Donc, c'est compliqué.
L'adolescent réclame de la morphine, une anesthésie, tout ce qui pourrait le soulager de la douleur atroce qui perce à travers ses yeux tuméfiés.
David, il est un peu agité. Il dit que ça fait très mal. Il dit qu'il va tuer ses Rwandais. On est en train de les conscientiser, de laisser ça.
Les lendemains de guerre ont une odeur distincte. Au bord de la route, à une dizaine de kilomètres au nord de Goma, plusieurs cadavres en tenue militaire ou civile se décomposent. Ils n'ont déjà plus de visage. Goma reprend vie, compte ses morts et panse ses plaies. Ce matin, quelques familles sont venues devant une base de la MONUSCO, la mission de stabilisation des Nations Unies, près de l'aéroport, où plusieurs centaines de soldats des forces armées congolaises désarmées se sont réfugiés et ont été cantonnés. Abigail cherche son mari, elle se hisse au niveau du mur, interpelle l'un d'entre eux, puis elle pleure.
Je ne sais pas s'il est là, s'il est déjà mort, je ne l'ai pas encore trouvé. On a perdu beaucoup de choses, madame. On a perdu nos frères, on a perdu nos parents et nos maris même. Nous sommes en train de pleurer beaucoup. Je n'aime pas répondre aux enfants. Parce que moi aussi, je ne sais pas où se trouve leur papa.
Dans la banlieue de la ville, les camps qui hébergeaient des centaines de milliers de déplacés ont été démantelés. Sur les pierres de lave, il ne reste que quelques bâches et vêtements éparpillés. Une grand-mère est assise sur une moto avec ses deux petits-fils et ses maigres affaires. Elle a passé près de 3 ans ici, sous une tente.
Vous voulez pas, moi ?
Nous survivions uniquement avec l'aide alimentaire. C'était très difficile. Hier, les nouveaux militaires nous ont dit de rentrer chez nous, que nous n'avions rien à craindre.
Une certaine normalité est revenue à Goma. Comme beaucoup ce week-end, John Kalungi, un médecin et commerçant, est venu faire quelques achats essentiels en ville pour la première fois depuis une semaine.
Nous sommes dans une situation de non-état parce que toutes nos autorités sont parties, nous la population. Si ceux qui sont venus, ils sont en mesure d'assurer notre sécurité, tant mieux, parce que nous avons besoin de vivre. Nous voulons la paix. Moi, je ne vois pas pourquoi il y a eu perte en vies humaines, les civils tant que militaires. Beaucoup ont perdu leur vie dans cette situation.
Les affrontements à Goma ont fait au moins 700 morts et près de 3000 blessés. Un bilan qui sera sans aucun doute revu à la hausse.
Patricia Huon, pour le reportage, merci beaucoup. L'actualité internationale, quand elle passe sous les radars, est rattrapée au vol par Kevin Dufraîche. Et c'est d'abord en Italie que nous sommes avec ce match de foot qui s'est très mal terminé.
C'était samedi soir après ce derby entre l'Udinese et Venise, remporté 3-2 par l'Udinese qui jouait à domicile. Et là, on a assisté à un nouvel épisode de violence entre supporters ultra, violence qui a franchi un nouveau cap. Les ultras de l'Udinese ont tendu une véritable embuscade à leurs rivaux en faisant arrêter le train qui les ramenait à Venise. Une cinquantaine d'hommes masqués sont descendus sur les voies peu après le départ du train, fumigène à la main, obligeant le conducteur à s'arrêter. S'en suivent alors des scènes très violentes, des jets de pierres sur le train qui transportaient certes 300 supporters vénitiens, mais aussi des passagers qui n'avaient rien demandé. Des ultras de Venise sont descendus sur le quai, alors frappés avec des bâtons et des matraques. Il y a plusieurs blessés, 8 personnes ont été arrêtées. D'après la police italienne, des ultras du club autrichien de Salzbourg sont également impliqués. Les deux clubs ont fermement condamné ces violences. L'affaire ne fait pas pour autant les gros titres ce soir en Italie.
Nous voici en Géorgie avec une nouvelle manifestation.
Oui, on en parle moins ces derniers temps, mais il y a toujours régulièrement en Géorgie des rassemblements contre le gouvernement pro-russe, accusé par l'opposition d'avoir truqué les dernières élections législatives. C'était en octobre dernier. Des milliers de personnes se sont donc rassemblées hier à Tbilissi, la capitale. Rassemblement marqué par l'arrestation par la police de 2 des meneurs de l'opposition. Nika Melia, président du parti pro-européen Akali, Italie. Et puis un ancien maire de Tbilissi, Guigui Ougoulava, tous les deux ont déjà fait de la prison en raison de leur opposition au rêve géorgien, le parti au pouvoir. Le premier a finalement été libéré sous caution. Une manifestation marquée par la violence des forces de l'ordre, des manifestants frappés, des arrestations musclées. La chef de la diplomatie européenne, Kaya Kallas, a réagi hier soir, dénonçant la répression brutale de manifestants pacifiques.
I made the wrong decision here.
Et puis nous sommes en Australie avec un petit scandale.
Oui, autour de Jo Hayland, elle est ministre des Transports de Nouvelle-Galles du Sud. L'Australie est un État fédéral et si elle est dans l'œil du cyclone, c'est parce que lors de la fête nationale le 26 janvier, elle a fait parcourir à son chauffeur près de 500 km dans la journée pour la conduire à un déjeuner privé, estimation de la course 450 euros. Depuis que l'affaire a été révélée, elle suscite un tollé. L'opposition appelle la ministre à démissionner, forçant le Premier ministre de l'État à réagir. Et puis Jo Hayland a tenu hier une conférence de presse pour s'excuser, admettant avoir fait une erreur. Tout ça alors que ce qu'elle a fait, eh bien, n'est pas interdit. Les règles officielles stipulent même noir sur blanc que l'utilisation privée de la voiture de fonction avec chauffeur est un avantage marginal des ministres. Mais ça ne correspond pas aux attentes des gens, a dit elle-même Jo Hayland, qui voit désormais tous ses déplacements étalés sur la place publique. Les médias australiens en font leur chou gras. Elle refuse toujours de démissionner, en tout cas pour l'instant.
Allez Kevin, merci beaucoup. Vous revenez demain, vous partez en attendant en passant par Trinidad avec la première star du Calypso. Calypso Rose, et le titre c'est Calypso Queen, ça lui va si bien.
Respecting me long, long reign, they making plot to take down me name. I've been breaking down walls ever since I was small. They could stand up tall and strong like a wrecking ball. I would knock them down. They say that I carry too long, forgetting that the constitution is strong. Instead of respecting me long, long reign, they making plot to take down me name. Small island girl, now I travel the world. Anywhere they go, they know I am Calypso Rose, queen of Calypso.
Calypso Rose, la Calypso Queen de Trinidad sur France Inter et dans Un jour dans le monde. Le Monde à 18h50, c'est Franck Madvon.
How dare you?
The world has changed.
Fabienne Saintès.
Pourquoi? Vous savez, c'est tout le monde.
Le 18-20.
Franck, le président algérien Tebboune tire à boulets rouges sur la France. Une interview qui est à lire dans le journal L'Opinion. Malgré ces violentes critiques, vous nous expliquez ce soir pourquoi le dialogue peut reprendre entre la France et l'Algérie.
Alors, soyons francs, hein, Fabienne, à lire l'interview fleuve du président Tebboune, on est d'abord plutôt enclin à défendre l'idée que la crise est plus profonde que jamais. Une interview habitée par la rancœur, voire la colère contre la France. Le dirigeant algérien déplore un climat délétère. Il estime que le dialogue politique est quasiment interrompu. En résumé, Abdelmadjid Tebboune considère que la France est aux mains de la droite et de l'extrême droite. Il vise notamment le ministre de l'Intérieur. Tout ce qui est Retailleau est douteux. Le président algérien réveille aussi les éternelles questions mémorielles liées à l'histoire de la colonisation, les crimes commis par la France pendant la guerre ou le nettoyage des sites des essais nucléaires français en Algérie dans les années 60.
Et Tebboune aborde aussi les sujets de discorde récents.
À commencer par le soutien apporté par la France en juillet au plan d'autonomie marocain au Sahara occidental. L'Algérie, elle, vous le savez, défend les indépendantistes du Front Polisario. Tebboune affirme avoir mis en garde Macron à l'époque contre une grave erreur. Vous allez nous perdre. Sur la question des visas, Tebboune s'indigne que Paris puisse remettre en question l'accord de 68 qui facilite l'entrée des Algériens en France. Quant à Boualem Sansal, l'écrivain franco-algérien détenu à Alger, Abdelmadjid Tebboune parle d'une affaire scabreuse visant à mobiliser contre l'Algérie.
Et malgré tout cela, vous pensez que le dialogue reste possible?
Eh bien, désolé pour l'inventaire non exhaustif, mais il faut partir de là pour examiner les rares points de convergence qui peuvent constituer les bases d'un dialogue. On sait que de chaque côté de la Méditerranée, l'histoire est instrumentalisée. Tebboune utilise la rhétorique anti-française pour masquer l'autoritarisme du système algérien. Et à Paris, une partie de la classe politique s'en prend à l'Algérie pour servir un discours anti-immigration qui passe sous silence les crimes de l'ère coloniale. Seul le temps effacera ces inclinations. Mais en France comme en Algérie, le désir d'échanger n'a pas disparu. Quand on lui dit que les deux pays ont besoin de se parler, Tebboune répond qu'il est totalement d'accord. Il affirme vouloir éviter une séparation qui deviendrait irréparable. Le ministre français Jean-Noël Barrot souhaite se déplacer à Alger et des gestes ont été faits ces dernières années, notamment la mise en place d'une commission d'historiens, une commission mixte pour réconcilier les mémoires.
Mais alors sur quoi pourrait s'appuyer une reprise du dialogue?
Déjà, en donnant cette interview, Tebboune montre qu'il veut faire passer des messages en France, c'est positif. Il dit « nous perdons du temps avec le président Macron », mais il s'en prend surtout à Bruno Retailleau et au RN. Il cite des personnalités françaises avec lesquelles le dialogue reste possible, Raffarin, Villepin ou Ségolène Royal. Tebboune épargne la DGSE, dont le patron Nicolas Lerner a été reçu à Alger en janvier, et on peut trouver dans son interview des sujets d'intérêt commun, la lutte antiterroriste, le soutien à un État palestinien, le non-alignement en diplomatie, revendiqué par Sébastien Lecornu hier dans le Figaro, les échanges économiques, la relation entre les deux pays très dégradée, ne tient qu'à un fil que ni Paris ni Alger ne veut rompre.
Franck Madvon, merci beaucoup et à demain Franck. Le lundi, Cyril Sauvageau écoute La Planète Tournée, c'est la BO du Monde.
France Inter, le 18-20.
Et Cyril, on revient ce soir sur la cérémonie des Grammy Awards qui a eu lieu la nuit dernière à Los Angeles.
The Grammy goes to... Kendrick Lamar.
Une édition marquée, Cyril, par le triomphe donc du rappeur californien Kendrick Lamar.
Il est monté sur scène à 5 reprises pendant la soirée, 5 Grammy pour un seul et même titre, le single Not Like Us, qui remporte notamment le prix de la meilleure chanson, récompense logique, tant ce morceau a marqué et rythmé l'année 2024 outre-Atlantique.
They not like us, they not like us, they not like us. They not like us, they not like us, they not like us. You think the Bay gon' let you disrespect Pac, nigga? I think that Oakland show gon' be your last stop, nigga. They cold foul, I don't know why you still pretending. What is the owl? Bird niggas and bird bitches go.
On ne peut pas s'empêcher, Fabienne, de ressentir un certain malaise en voyant le public des Grammy applaudir Kendrick Lamar et chanter avec lui sur ce titre-là en particulier. Pourquoi ? Parce que Not Like Us n'est pas un morceau comme les autres. C'est une attaque frontale, une charge virulente à base d'insultes, de menaces et d'agressions verbales contre un autre rappeur, le Canadien Drake, accusé tout tour à tour d'être un mauvais père, un vendu ou encore un pédophile. Faut-il se réjouir de voir triompher ce genre de propos dans la plus prestigieuse des cérémonies musicales? Bizarrement, cette question semble assez peu se poser au moment où Kendrick Lamar collectionne les récompenses, comme si l'auteur de Not Like Us avait en quelque sorte gagné par chaos le clash qu'il oppose à Drake depuis plusieurs mois.
Alors, tout a commencé comme une joute verbale, Cyril, assez classique finalement dans l'univers du rap.
Oui, leur rivalité d'ailleurs remonte à très loin, mais les choses s'accélèrent début 2024, lorsque ces deux poids lourds du rap américain commencent à se rendre coup pour coup à grand renfort de punchline, un affrontement suivi comme un combat de boxe par les médias et les fans de hip-hop, et chacun y va de sa provocation. What the fuck you really got to do? You passed you the torch at the House of Blues, and now you gotta do some dirty work. You know how to move, right? Right? I know you never been to jail or with jumpsuits and shower shoes. Never shot nobody, never stabbed nobody, never did nothing violent. And no one, it's the homies that empower you. But still, you gotta show. On entend ici Drake détourner les voix de deux légendes du rap californien, Snoop Dogg et Tupac, avec l'aide d'une intelligence artificielle, de quoi rendre fou Kendrick Lamar. Lui, l'héritier du rap West Coast, ne peut pas supporter d'entendre le Canadien Drake s'approprier ainsi ses héros et sa culture. Il va donc enregistrer en réponse Not Like Us, pas comme nous, histoire de remettre les pendules à l'heure.
Donc, de l'avis général, ce morceau a donné une victoire très nette à Kendrick Lamar, mais l'histoire ne s'arrête pas là.
Drake a décidé de porter l'affaire devant la justice, avec une plainte pour diffamation contre le label Universal. Le Canadien dénonce une campagne de dénigrement. En novembre, il avait accusé la maison disque d'avoir gonflé artificiellement les chiffres d'écoute du morceau de Kendrick Lamar et d'alimenter son succès via les réseaux sociaux. Hey, they not like, they not like, they not like, yeah, they not like, they not like. Hey, once upon a time all of us was enslaved. Homies still double down calling us some. Comment finira cette guerre d'égo entre superstars millionnaires? Eh bien, en croire le palmarès des Grammys, Kendrick Lamar sort clairement vainqueur. Ses deux atouts majeurs, on peut le dire, c'est d'abord un sens de la formule à toute épreuve. Le texte de Not Like Us, aussi injurieux, aussi violent soit-il, a réussi à taper juste et à toucher le public, notamment le public américain. Et ensuite, il a réussi à transformer ce clash un peu idiot en un combat pour la défense de la culture hip-hop authentique, et ça, c'est plutôt bien joué.
He the 69. Hey, 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 hey. Hey, Smack. Let me hear you say Ruga. Dim Sam. Sam. Dim Sam. Sam. Are you my friend? Are we? Dim Sam.
Allez, c'est fini pour toi avec Kendrick Lamar. Merci beaucoup, Cyril Sauvageau. À lundi prochain, le 18-20, la suite. C'est le journal de 19h avec Hélène Philippe qui vient de s'installer, ça tombe bien, et puis le téléphone sonne. Bonsoir Philippe Lefébure.
Bonsoir à tous.
Rédacteur en chef du 18-20, Philippe, ce soir on regarde du côté des 49.3 et des censures et on se demande, mais où est le RN?
Ben oui, la France Insoumise va déposer une motion de censure contre le budget de Bayrou, les communistes, les écologistes la voteront, les socialistes non, et à 7 ans en revanche, on ne sait toujours pas ce que feront les députés du Rassemblement National, ils ne décideront que mercredi. Lorraine, eh bien le RN doit être un petit peu embêté dans cette histoire, bientôt va tomber la probable condamnation de Madame Le Pen à une peine d'inéligibilité. Et donc, ça pourrait sembler le moment pour pousser Emmanuel Macron à la démission en faisant chuter le nouveau gouvernement. Mais je les sens plus enclins à attendre juillet et rendre l'Assemblée infernale afin de provoquer une dissolution. Bah oui, Lorraine.
01 45 24 7000 pour discuter avec nous. Même chemin pour vos pouces et vos messages vocaux sur WhatsApp.